Le journal Jean-Paul Pitchy.
Bonsoir. Le Conseil des États en balade à Neuchâtel. Une bonne partie des 46 représentants des cantons se sont rendus aujourd'hui dans la région à l'occasion de leur sortie annuelle. Reportage dans ce journal. Le projet de la maison de la Tourbière avance petit à petit au pont de Martel. Alors que les travaux vont bon train pour transformer l'hôtel du Cerf en musée, un sentier accessible aux personnes à mobilité réduite et une machine unique en Suisse ont fait leur apparition cet été dans la Tourbière. Rassembler petits et grands autour d'une multitude d'activités sportives différentes, telle est la philosophie des Family Games. Cet événement populaire et festif se tient pour la quatrième fois dimanche à La Chaux-de-Fonds. La nuit sera étoilée mais fraîche, demain la bise soufflera moins et il fera beau. Côté température, le mercure affichera 16 à 19 degrés au meilleur de la journée. Excursion neuchâteloise aujourd'hui pour le Conseil des États. Une bonne trentaine des 46 représentants des cantons ont passé l'après-midi entre le château de Neuchâtel et Auvernier pour leur balade annuelle. À 14h, ils ont été accueillis par le conseiller d'État neuchâtelois, Laurent Courte.
Où est arrivé ce quart, Monsieur le Président? Vous attendez un quart, on vous voit arriver tout de suite en délégation.
Bonjour, bonjour.
Ça va, bienvenue.
Oui, ça va.
Plaisir
merci
de vous accueillir.
Beaucoup.
Merci
moi aussi.
Un choix de destination plutôt inhabituel. Souvent, les présidents du Conseil des États choisissent leur propre canton pour ces sorties. Pourtant, Thomas Sefti, l'actuel président, est glaronnais. Alors, pourquoi Neuchâtel? Nous avons posé la question à Philippe Bauer, conseiller aux États neuchâtelois.
Deux options, soit parce que c'était le plus beau canton du monde, et ce sera ce que dans l'histoire se souviendra, soit l'autre option, c'est que Thomas Sefti a fait toutes ses études à Neuchâtel, et il a trouvé que c'était un peu trop loin d'aller à Glaris, alors il a préféré revenir ici.
Après confirmation, c'est l'option numéro 2 qui a convaincu Thomas Sefti, même s'il ne cache pas son attachement à Neuchâtel, où il a étudié pendant 6 ans à la faculté de droit et de sciences économiques.
J'ai commencé en 78. Et il y a bien de choses qui ont changé, mais il y a des choses qui sont restées les mêmes. Et le château est ici, en haut, c'est le même, et la vue aussi. La vue m'a marqué, la ville m'a marqué, les bâtiments avec la pierre jaune d'Autriche, et ceci tout m'a marqué. Et le lac.
Thomas Sefti n'est pas le seul à qui Neuchâtel rappelle des souvenirs. Le conseiller aux États jurassien Charles Juillard était très heureux d'apprendre que cette sortie se ferait en sol neuchâtelois.
Oui, évidemment, c'est déjà en Suisse romande et puis ensuite ça me rappelle beaucoup de souvenirs puisque j'ai fait notamment mes 4 ans d'université ici à Neuchâtel, en droit, assis pendant 4 ans à côté de Philippe Bauer, ça laisse des traces.
Et aujourd'hui, quand on vous dit Neuchâtel, content de Neuchâtel, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier?
Moi, je crois que c'est son développement économique. Des points communs avec le Jura, évidemment, au niveau de l'horlogerie, de la machine-outil. Et cette proximité nécessaire de collaboration entre nos deux cantons.
Au nom du gouvernement, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous accueillir ici au château de Neuchâtel, dont on rappelle régulièrement qu'il est un lieu de pouvoir depuis environ un millénaire.
De leur côté, les deux conseillers aux États neuchâtelois étaient ravis de pouvoir présenter leur canton à leurs collègues. On retrouve le PLR Philippe Bauer.
Mais bien sûr, et c'est ça qui est absolument génial. Et peut-être aussi de pouvoir boire du vin blanc de Neuchâtel et pas du vin blanc vaudois comme on doit le boire au palais.
La verte Céline Vara, de son côté, s'est également dit très fière de ce choix de sortie. Une sortie qui est peut-être aussi l'occasion de faire la peau à certains clichés qu'ont les autres conseillers aux États sur le canton de Neuchâtel.
Oui, alors il y a toujours des clichés de manière générale sur les Suisses allemands et les Suisses romands, bien sûr. Sur les Neuchâtelois, il y a toujours cette histoire de haut-bas qui les fait un petit peu sourire, parce qu'on est un tout petit canton par rapport aux autres en Suisse. Donc c'est plutôt des clichés, disons, sympathiques, gentillets. Mais aujourd'hui, je suis absolument persuadée que mes collègues qui ont les yeux grands ouverts, en plus on a un temps formidable, il fait beau, il fait bon, sont ravis de découvrir ce château, cette collégiale, cette vue extraordinaire. Et puis ils nous connaissent très bien, mon collègue Philippe Bauer et moi, ils savent que les Neuchâtelois, eh bien, ce sont des gens bien.
Et donc, honorés de votre présence, nous en restons donc là et vous réitérons à toutes et à tous une très cordiale bienvenue. Merci encore de votre présence.
Un reportage réalisé par Cécile Détrat. Après la visite du château, les représentants des cantons se sont rendus en bateau à Auvernier pour un apéritif et un repas. Et avant cette sortie en terre neuchâteloise, le Conseil des États a travaillé ce matin à Berne. Il s'est notamment penché sur l'utilisation des engrais dont les objectifs de réduction ont été revus à la baisse. Une motion en ce sens de la PLR fribourgeoise Johanna Gapani a été acceptée. Elle visait une décision du Conseil fédéral en matière de pesticides dans l'agriculture combattue par l'Union suisse des paysans. Le Conseil fédéral s'appuyait pourtant sur la volonté de la majorité du Parlement. Les explications de notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulami.
Le Conseil fédéral a adopté en avril une ordonnance pour baisser de 20% l'utilisation d'engrais d'ici 2030. Il se conformait ainsi à une initiative parlementaire adoptée par les deux chambres l'an dernier pour réduire les dangers des pesticides. Le monde paysan s'insurge contre un tel objectif. Il souligne la période délicate dans l'approvisionnement mondial. Selon lui et la PLR Johanna Gapani, si on réduit de 20% l'utilisation de fertilisants, on va provoquer une baisse de la production alimentaire. Suisse. Il faut donc revoir à la baisse cet objectif pour le fixer à 10%. Au nom du gouvernement, le ministre UDC Guy Parmelin a admis qu'il s'agissait certes d'un défi pour les paysans, mais réalisable. La verte vaudoise Adèle Torrance a souligné que modifier l'objectif fixé revenait à trahir une promesse faite par le Parlement et minimiser l'impact des pesticides sur la nature. En vain, une majorité de droite a accepté la motion Gapani. Le National doit encore en débattre.
Un nouveau sentier didactique à la Maison de la Tourbière. Le musée des Ponts de Martel a inauguré récemment le tracé du Marais Rouge. Plusieurs plateformes de bois ont été installées le long du parcours et ces dernières permettent cette fois aux personnes à mobilité réduite de circuler à travers les tourbières. Jacques-André Maire, président de la fondation du musée.
Nous avons étendu un peu le tracé du sentier didactique, puis surtout nous avons rapproché son entrée de la Maison de la Tourbière, de la gare, de l'arrêt de bus aussi pour permettre un accès facilité aussi pour les personnes à mobilité réduite. Sur le nouveau tracé, il n'y a plus d'escalier et on peut, avec une poussette ou une chaise roulante, faire l'ensemble du parcours sur des caillebotis de bois. Donc ça, c'était aussi un des objectifs, de permettre vraiment l'accès à tout un chacun pour ce sentier didactique.
Il y a aussi une nouvelle arrivée. Ici, c'est la malaxeuse, cette fameuse malaxeuse, elle est en train d'être rénovée.
Voilà, alors la malaxeuse, c'était donc une machine d'exploitation de la tourbe de chauffage qui a joué un rôle important durant les guerres, surtout quand il y avait des besoins énormes en quantité de tourbe, et on avait mécanisé la fabrication de la tourbe avec ces fameuses malaxeuses. Il en reste une seule en Suisse, et vous pouvez la découvrir le long du sentier didactique. Elle tombait en ruine, et nous avons pu la rénover grâce à l'aide de la Haute École Arc, Conservation Restauration, qui travaille maintenant depuis 3 ou 4 ans à la rénovation de cette malaxeuse. Et puis, avec la rénovation du sentier, nous avons construit une plateforme pour l'exposer le long du sentier.
Des propos recueillis par Yann Esler. Actuellement, la maison de la tourbière située à l'hôtel du Cerf est en travaux. Le restaurant verra le jour en juillet de l'année prochaine et le musée devrait être terminé d'ici le mois d'octobre 2023. Seul souci, l'inflation. Alors que le projet final est devisé à 7,2 millions de francs dans son ensemble, des dépassements de budget sont à envisager. Pour combattre l'anxiété chez les jeunes, il faut libérer la parole à son sujet. Pro Junior Arc Jurassien a présenté ce matin son nouveau clip de sensibilisation autour de ce thème que vous pouvez voir sur rtn.ch. Un petit film qui sera projeté également dans les cinémas de l'Arc Jurassien en tandem avec une campagne d'affichage. Dans un deuxième temps, il sera doublé dans toutes les langues nationales et diffusé partout dans le pays. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, les États-Unis prennent au sérieux la menace de Vladimir Poutine de recourir à l'arme nucléaire dans la guerre en Ukraine. C'est la déclaration faite aujourd'hui d'un porte-parole de la Maison-Blanche qui a prédit de sévères conséquences si le président russe passait à l'acte. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne croit pas à l'utilisation d'armes nucléaires par Moscou. Il l'a dit aujourd'hui dans une interview à la chaîne allemande Bild TV. Vladimir Poutine qui a également annoncé aujourd'hui la mobilisation partielle pour renforcer ses troupes en Ukraine, ce qui a entraîné une ruée des Russes sur les sites internet des compagnies aériennes pour tenter de quitter le pays au plus vite. La mobilisation concerne dans un premier temps 300 000 réservistes, mais selon le ministère de la Défense, au total 25 millions de Russes sont mobilisables pour rejoindre les rangs de l'armée dans l'est et le sud de l'Ukraine.
18h09.
Sport. Lutte, rugby, street hockey ou encore école de cirque et tir à l'arc, la liste est longue. Pas moins de 30 activités sportives différentes seront à découvrir gratuitement dimanche dans l'enceinte du parc des sports de la Charrière à La Chaux-de-Fonds à l'occasion de la 4e édition des Family Games. L'organisation de cet événement populaire et festif est assurée par le Panathlon Club des Montagnes Neuchâteloises. La démarche vise toujours à réunir parents et enfants autour d'une journée active de découverte. Jean-Claude Perroux, président des Family Games.
Cette idée est fantastique parce qu'elle offre une journée magique et gratuite aux familles qui pourront tester enfants, parents, voire grands-parents, plus de 30 disciplines sportives. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important et de formidable parce que les gens actuellement ne se rencontraient que peu. Heureusement qu'il y a eu de nouveau la braderie, qu'il y aura aussi les vendanges. Mais véritablement, venir ici à la Chaux-de-Fonds dimanche, vous pourrez découvrir toutes ces activités sportives, encore une fois, gratuitement.
Ce qui vous plaît, c'est vraiment l'esprit, je dirais, famille, l'esprit de faire une activité parent-enfant.
Alors ça, c'est tout à fait l'important de pouvoir montrer aux parents qu'ils peuvent aussi essayer ces différents sports. Et puis que les enfants peuvent également le faire, tout comme les parents. Et surtout, les parents pourront discuter avec les présidents, voire les entraîneurs de club, connaître les heures d'entraînement, le coût des cotisations, etc. Et puis, je crois que c'est une ouverture fantastique.
Des propos recueillis par Marcel Neunschwander. Pour participer aux Family Games, il suffit de se présenter entre 9h et 17h à l'accueil au Parc des Sports de la Chaux-de-Fonds ce dimanche. Donc, c'est une première depuis son retour au jeu. Stan Wawrinka a remporté 3 matchs de suite. Le Vaudois s'est imposé cet après-midi en 16e de finale du tournoi de tennis de Metz en France. Il a disposé du Portugais João Sousa 7-6, 6-2. Au prochain tour, Stan Wawrinka défiera le numéro 4 mondial, le russe Danil Medvedev. Pour sa première édition, le Tour de Romandie féminin pourra compter sur un plateau royal du 7 au 9 octobre. Les meilleures coureuses de la planète se disputeront la victoire sur cette épreuve qui a directement été intégrée au calendrier du World Tour. Selon Bro Tableau, Annemiek van Vleuten, qui a remporté cette année Tour de France, Giro et Vuelta, pourrait manquer à l'appel. La Néerlandaise s'est blessée en chutant aujourd'hui au championnat du monde. Mais avec ou sans elle, le directeur de la boucle romande ne boude pas son plaisir de voir naître ce Tour féminin. Richard Chasseau.
C'est quand même un peu historique, hein. il faut être honnête, parce qu'en fait, le Tour de Romandie a 75 ans. J'étais pas évidemment là à ses débuts. Là, on est au début de l'histoire, donc c'est quand même plutôt sympa. On espère qu'elle durera. C'est toujours assez complexe de lancer des nouvelles choses, surtout dans l'économie actuelle, dans la politique actuelle. Mais on est très ambitieux, on est très content de présenter ce Tour de Romandie femmes, d'autant plus que ce qu'on avait imaginé, projeté au niveau de la participation, au niveau des sponsors, au niveau des parcours, des villes qui nous reçoivent, se réalise. Alors c'est assez facile de venir en conférence de presse quand ce que vous aviez plus ou moins dit que vous alliez faire se fait, que de dire « ah ben non, finalement, on n'y arrivera pas », parce que c'était aussi une possibilité, on a quand même pas mal d'obstacles malgré tout chaque jour ou problèmes à résoudre. Donc on est quand même assez content d'être là avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce tour, on sera encore plus content quand il sera réalisé.
Des propos recueillis par Christophe Moréon de Rhône FM. Le peloton du Tour de Romandie féminin s'élancera de Lausanne le 7 octobre. La deuxième étape l'emmènera à Thion 2000 avant le final de dimanche à Genève. Très belle soirée.